Deutsche Welle. Le club de l'auditeur.
Au menu aujourd'hui, la Côte d'Ivoire après le retrait de la mission de l'ONU. Nous entendrons vos commentaires et le point de vue d'un sociologue ivoirien. Bonjour et bienvenue à tous pour cette édition du Club animée par Mireille Drone. Faut-il le rappeler, c'est notre rendez-vous tous les samedis à 17h et tous les dimanches à 7h temps universel. Un grand merci d'abord à tous ceux qui expriment leur attachement à nos programmes comme Jorge de Curico au Chili, Max de Bruxelles en Belgique, Hassana de Bandiagara au Mali, Kofi de Libreville au Gabon, Théodore de N'Djamena au Tchad et Rodriguez dans l'Est de la RDC. Et puis félicitations à tous ceux qui ont fêté ces derniers jours leur anniversaire, à savoir Rachid de Balil au Maroc, Idrissi de Béjaïa en Algérie, Prosper d'Anié au Togo, Guillaume de Boisflé en Côte d'Ivoire, Hyacinthe de Nyanga au Congo-Brazzaville, Eric de Dondo en Angola et Chanceline de Kigali au Rwanda. La mission de l'ONU en Côte d'Ivoire, l'ONU-CI, s'est donc retirée définitivement après 13 ans de présence dans le pays. Son objectif était de faire respecter les accords de paix, mais où en est-on aujourd'hui? Lorsqu'on regarde la situation actuelle de la Côte d'Ivoire, on constate qu'il y règne une certaine stabilité. Après une longue période de crise qui a marqué l'histoire de cette nation, nous écrit un internaute du Cameroun. Selon lui, l'ONU-CI a donc mené à bien sa mission et il pense qu'il revient maintenant aux autorités du pays de tout mettre en œuvre pour sauvegarder la paix et la stabilité. Oui, mais, pense Messi de Bamako au Mali, certes, ses forces ont travaillé, mais elles n'ont pas empêché les mutineries des ex-rebelles durant les mois derniers, reconnaît-il. Et Trésor du Tchad rappelle que la mission de l'ONU-CI était la sécurité et le maintien de la paix. Or, à son avis, elle n'a fait qu'attiser le feu entre les parties opposées et le chaos s'installe dans ce pays. Louis de Boisquet, en Côte d'Ivoire, souligne que l'ONU a indirectement admis son échec.
Ça dépend de quelle était la mission. La mission était-elle d'appliquer la vision de la communauté internationale dans une crise politique qu'on connaît? Et on connaît bien quelle était la position de la communauté internationale. Ou bien était-elle de poser les bases d'une paix durable, ou du moins d'une situation sécuritaire durable? Si c'est là encore, on a tous entendu les rapports concernant des armes qui seraient dissimulées, de grandes tonnes d'armes qui seraient dissimulées par certaines personnes encore, et avec les armes découvertes à Boaké, est-ce que tout ça, ça augure de l'inclinat apaisé de demain?
Mais donc, vous pensez que ce départ est finalement prématuré, ou c'est quand même mieux? Parce que finalement, elles n'ont pas rempli donc complètement leur mission, puisqu'il y a toujours ces armes qui circulent.
Oui, pourquoi rester? Est-ce qu'en restant, on pourrait, en toute objectivité, s'attendre à ce que l'ONU-CI puisse récupérer ses armes et mener des investigations sérieuses pour qu'on puisse dire, en dehors de celles dont on a information, il n'y en a pas d'autres qui surgiront demain. Pour l'avis de beaucoup, c'est un échec.
Oui.
Des rapports ont été rendus parlant de succès et on parle encore de centaines de tonnes. C'est l'ONU qui a sorti un rapport parlant de nombreuses tonnes qui seraient détenues par l'ancien chef de la République. Mais l'ONU-CI, c'est l'ONU-CI, si l'ONU encore soit, c'est un aveu d'échec. Voilà, si moi je dis que oui, pour telle opération, j'ai eu du succès, et je dis encore qu'il y a 400 ou 3, plus de 300 tonnes. Mais ces armes, ça n'a pas pour objectif de soigner la population. Maintenant, là, ils souhaiteraient se réorienter vers une mission de formation, hein, pour parler de structures militaires plus organisées, plus consciencieuses de son rôle vis-à-vis de la population, etc. Ça, c'est un autre objectif qui n'était pas celui du mandat pour lequel l'ONU-CI a été instituée.
Notez qu'à son apogée en 2012, la mission de l'ONU-CI comptait 9762 hommes. Selon un rapport d'avril 2016 du secrétaire général de l'ONU de l'époque, Ban Ki-moon, aucune mission ne lui succédera, étant donné la trajectoire positive de la Côte d'Ivoire, je cite. Mais selon Fousseni de Bamako, ce départ intervient à un moment critique de l'histoire ivoirienne. Les haches de guerre ne sont pas encore enterrées, il y a toujours des violations graves contre les droits de l'homme, écrit-il. Alors, où en est la Côte d'Ivoire? J'ai posé la question à Fahiraman Rodrigue Koné, sociologue ivoirien, qui a participé la semaine dernière au Forum mondial des médias organisé à Bonn par la Deutsche Welle. Il est enseignant au Centre de recherche et d'action pour la paix à l'Université Alassane Ouattara de Boaké.
Vous savez, nous sommes encore dans une société très polarisée. En 2010, si l'on a cru sortir du conflit, en réalité, les modalités de sortie du conflit ont créé, je pourrais dire, les conditions de l'institutionnalisation du conflit comme mode continu de construction de notre histoire. Et la manière dont la crise de 2002 s'est terminée après cette crise post-électorale violente n'a pas créé suffisamment de bases communes pour pouvoir négocier une période post-crise beaucoup plus apaisée. Vous allez constater qu'actuellement, au point de vue politique, depuis en tout cas 2010 à 2015, il y avait un acteur politique qui a gagné les élections selon la position officielle de tous. Et cet acteur dominait la scène politique globalement. L'opposition était carrément alambiquée, sans véritable, je dirais, capacité de réaction dans un contexte aussi difficile pour elle. Donc ce qui a fait qu'il y a une construction plus ou moins unilatérale de cette période post-crise qui n'est donc pas consensuelle. Et cela crée donc les conditions d'une sortie de crise très fragile, très fragile. Et le moindre soubresaut permet de questionner ou de faire trembler les piliers sur lesquels cette phase, période post-crise a été mise en œuvre. Ce que je peux vous dire, nous sommes dans un équilibre fragile qui est directement lié à la manière dont nous sommes sortis de crise et qui n'a pas permis de négocier des piliers solides de l'institutionnalisation, d'une paix consensuelle. Et donc cette problématique-là reste le terreau fertile à la manifestation des contradictions internes, même des acteurs qui sont sortis de crise, mais également expose la société à des violences à répétition.
Mais dans la gestion justement de ces crises, enfin post-conflit, quels sont les éléments qui rentrent en jeu selon vous? Est-ce que justement la justice coutumière peut jouer un rôle dans la mesure où il s'agit de problèmes fonciers ou est-ce qu'il s'agit réellement d'un problème seulement ethnique ou ça c'était seulement une façade liée justement à une économie, à la défavorisation de certaines couches de population? Selon vous, où le bât blesse réellement?
Je pourrais dire que le conflit ivoirien, il est complexe en lui-même, hein, il est complexe, mais on peut retrouver un fil rouge à partir du leadership politique lui-même. Et à notre avis, le politique est un facteur majeur dominant dans la manière dont la société est entrée en crise ou gère elle-même sa crise. Nous ne sommes pas encore globalement sortis de la période de la période où Fouad Boigny. D'ailleurs, Fouad Boigny n'a jamais été aussi vivant que pendant sa mort. En 2010, aux élections de 2010, par exemple, tous les acteurs se réclament de lui. On a toute une génération qui est liée à cette période de gouvernance de Fouad Boigny qui a tendance à reproduire le schéma de gouvernance de Fouad Boigny dans un contexte qui est totalement dépassé. Vous avez une population qui est à 73% qui est en dessous de 35 ans, avec un âge moyen des gouverneurs qui est entre 50 et 60 ans. Donc il y a toute une cassure, donc un fossé. Donc il y a une inefficacité des politiques à rendre compte des besoins, à construire des politiques publiques qui résolvent les problèmes du chômage et même de l'éducation, une CRS, de qualité et tout ça. Donc il y a des enjeux de développement au départ qui sont du fait de la manière dont le leadership politique construit ses politiques de développement qui restent encore déconnectés souvent de la réalité. Il y a également au niveau des politiques cette tendance continue à lutter de façon très violente pour l'acquisition du pouvoir. Nous avons un système qui, à notre avis, peut facilement mettre à l'écart les autres. Pendant que nous sommes en période électorale, vous voyez la tension qui monte entre les groupes et tout ça. La mobilisation du discours ethnique, l'ethnicité en particulier, fait partie de la ressource de l'action politique, de la même manière que l'usage de la violence elle-même. Voilà, donc
est-ce qu'il n'y a pas justement une instrumentalisation? Parce que je veux dire, avant en Côte d'Ivoire, les gens vivaient toujours aussi ensemble.
Oui, justement, quand je parle d'ethnicité, c'est cette instrumentalisation de l'ethnie comme ressource de l'action politique pour pouvoir accéder au pouvoir et tout ça. Donc c'est un discours construit politiquement. On a vu toute cette période, ce discours sur l'ivoirité dans les années après la mort du Fouad Boigny. Ce discours a alimenté ou nourri aussi des contre-réactions. La rébellion justifiait, dit-elle, son action pour réclamer plus de citoyenneté pour les populations du Nord. Bon, on ne sait même pas ce que veut dire les populations du Nord parce que ce ne sont pas des groupes homogènes. Il y a tout un ensemble, je pourrais dire, c'est plus complexe que cela. Mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a une instrumentalisation par le politique qui construit des identités autour desquelles elle va mobiliser des acteurs qu'elle va projeter dans l'espace politique avec l'espérance que, quand on accède au pouvoir, les ressources seront redistribuées à l'ensemble de ces acteurs-là, ce qui n'est pas vrai. Parce que depuis, il y a une incapacité de tous les leaders à pouvoir trouver réponse aux problématiques les plus profondes, réelles, notamment le chômage des jeunes et autres qui transcendent les clivages ethniques ainsi de suite et religieux. Donc, ce qui est en jeu, ce sont des questions de développement et surtout de capacité d'un personnel politique à pouvoir trouver des politiques alternatives efficaces à résoudre les problèmes des Ivoiriens à la base.
Donc pour vous, la clé de la paix, elle passe par l'économie et le phénomène migratoire en est la preuve.
L'économie, mais aussi la construction d'une nouvelle légitimité politique. Cela est très important. Il ne faut pas seulement voir l'économie comme la seule modalité de sortie de crise. D'ailleurs, à notre avis, le gouvernement actuel a fait ressortir abondamment l'économie comme étant l'élément clé. Il y a toute une rhétorique qui se construit autour des performances macroéconomiques qui, en réalité, finalement, n'arrive pas à être déconnecté de la réalité pour les gens. Qu'est-ce que veut dire 9, 10% ou 8% de chiffre de croissance pour un
jeune? Pour les jeunes, ça se traduit par rien du tout.
Par rien du tout, pour les femmes qui ont les casseroles vides. Donc, il y a véritablement un déficit aussi de construction de la légitimité politique qui explique ce positionnement aussi des populations vis-à-vis du régime. Et il faut que les populations se reconnaissent dans le régime politique qui est là, qu'ils adhèrent et qu'ils sont d'accord, qu'ils font partie de l'histoire de la construction d'un pays ensemble. Et ça, il y a un déficit à ce niveau, à créer cette cohésion nationale, d'où la problématique de la réconciliation, la problématique de la justice, qui sont stratégies qui sont tout aussi importantes que les questions économiques.
Donc selon vous, l'aspect de la justice est presque encore plus important que l'aspect économique.
Oui, tout à fait, comme je le disais, la question économique est réelle et elle soutient, je pourrais dire, beaucoup de tensions dans le pays. Mais à mon avis, il y a aussi à construire une nation, il y a aussi à construire un consensus politique dans un contexte très polarisé, et d'où la question de la réconciliation, de la justice, qui reste des priorités également, au même titre que des priorités économiques. Sinon, l'économie s'effondrera parce qu'elle ne sera pas fondée sur, je pourrais dire, une solidité sociale et politique.
Mais est-ce que la justice du pays est déjà mûre, justement, pour entamer cette réconciliation qui est un processus extrêmement lent? On a vu le processus paix et réconciliation en Afrique du Sud, on l'a vu aussi au Rwanda, par exemple.
Oui, c'est un processus qui est complexe parce que vous citez les cas de l'Afrique du Sud, encore du Rwanda, mais qui sont dans des contextes différents. Je rappelle simplement, par exemple, pour l'Afrique du Sud, qu'il y a eu d'abord un dialogue politique assez profond entre les acteurs pour finalement passer à des élections qui, donc, ont permis d'ouvrir un peu toute cette page de la justice transitionnelle et avec plus ou moins de succès. Dans le contexte ivoirien, je rappelle toujours que le passif de la crise post-électorale n'a pas été réglé. Donc nous sommes sortis de la crise post-électorale de façon, je dirais, très violente et avec une société fracturée. Il n'y a eu aucune base du dialogue à la base. Donc le processus de réconciliation lui-même a été politiquement instrumentalisé par les différents acteurs qui n'y croyaient pas ou qui voulaient en faire un cheval à partir duquel ils pourraient continuer la lutte d'une autre manière. Donc nous sommes dans un contexte très complexe où la justice peine à prendre forme. Donc, il aurait fallu travailler en profondeur sur cette question. La justice, malheureusement, se retrouve dans un positionnement institutionnel qui la rend, à notre avis, dépendant pratiquement de l'exécutif. Donc, c'est autant d'enjeux au point de vue institutionnel, politique, qui doivent compter parmi l'agenda post-crise. Et cette dimension d'enraciner la justice dans le vécu quotidien des gens, dans ce qui fait sens pour eux, dans des structures coutumières ou sociales locales, il y a tout un déficit. La réconciliation n'a pas su capitaliser un peu sur les opportunités internes même de notre société, de nos communautés pour pouvoir véritablement créer des consensus. C'est tout un chantier qui a été mis de côté par le pouvoir en place. Donc, il y a autant de défis aussi pour la justice.
Mais est-ce que ces structures locales sont encore intactes ou est-ce qu'elles n'ont pas été éclatées justement par le conflit?
Ces structures existent. Je vais prendre simplement les tribunaux en greffe coutumier, oui. Ou souvent on peut appeler les palabres des chefs. Au niveau local, ces acteurs ont joué un rôle important pendant toute la période de la crise. D'ailleurs, si la société ivoirienne n'a pas basculé dans la guerre civile, il faut dire que ces acteurs ont été un rempart efficace de dernier recours pour recoller les morceaux, créer le dialogue entre les différentes communautés à la base et se positionner comme un bouclier par rapport à l'instrumentalisation politique. Donc, il ne faut pas ignorer ce travail qui est fait. Mais ces acteurs arrivent à le faire parce qu'ils se basent sur des ressources culturelles locales, sur ce qui fait sens pour les acteurs à la base, qui leur reconnaissent une légitimité, même si cette légitimité leur permet de façon stratégique à revendiquer une certaine identité. Cela dit, ce sont des acteurs qui peuvent être aussi politiquement instrumentalisés. Ça, il ne faut pas l'ignorer. Mais cela fait partie de la dynamique même du fonctionnement social et historique, hein, un peu de la société. Il faut arriver à voir dans quelle mesure on peut les utiliser ou dans quelle mesure on ne peut pas les utiliser, mais de façon complémentaire avec les initiatives au point de vue national ou international. Il y a la société elle-même qu'il faut mener dans cette dynamique. La réconciliation est un processus national qui doit intégrer l'ensemble des acteurs.
À qui, selon vous, incombe la sécurité? Parce que c'est un aspect aussi qu'on a souligné dans ce climat un petit peu, toujours délétère.
La sécurité, telle qu'elle se positionne en Côte d'Ivoire aujourd'hui, avec les dernières mutineries qu'on a vues, aussi toute la problématique criminelle des microbes.
Alors, les microbes, il faut expliquer pour les non-initiés que ce sont des petits groupes de...
Oui, ce sont des enfants qui sont très jeunes, 6 ans, 16 ans, voilà, qui bougent en groupe et qui commettent des agressions chez des personnes. C'est un phénomène qu'on a vu, en tout cas, s'exprimer beaucoup plus dans la période post-électorale, qui est lié à la déstructuration même des services familles. De sécurité, d'abord, mais qui est enraciné, comme justement vous le dites, dans les difficultés familiales particulières ou le manque d'investissement de l'État dans certains quartiers de longue date et finalement ça crée des dynamiques. Avec la crise elle-même, il ne faut pas oublier la crise, la guerre même post-électorale où ces enfants ont vécu dans un environnement de violence, où la violence
traumatisant.
Est quelque chose, oui, un recours aussi pour se construire dans la société. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand vous voyez comment ces enfants développent une stratégie d'attaque, c'est directement lié à la manière dont les acteurs militaires de la crise également se sont investis dans cette... Donc ils ont appris de cette période, et étant dans un contexte social, économique particulier, avec un système politique où ils sont mis de côté, parce qu'en agressant, ils agressent à l'arme blanche, comme pour laisser des traces sur le corps de leurs victimes, pour se rappeler que ce sont des acteurs qui existent dans la société. Et mais le mot microbe vient du fait de leur petitesse, hein, de insoupçonner. Comme le microbe dans le corps humain qui ne se voit pas à l'œil nu, mais qui a une capacité d'agressivité, de nuisance assez forte. Mais toutes ces problématiques de sécurité, qu'elles s'expriment sous un angle criminel ou sous un angle beaucoup plus militaire de violence, comme les mutineries que nous venons de voir, rappellent toujours, je pourrais dire, la responsabilité de l'État ivoirien dans sa politique sécuritaire globale, mais de façon plus globale dans son développement. Donc, dire qui est responsable de la sécurité, en premier, c'est d'abord les autorités politiques. Comment ce système sécuritaire a été mis en place? Il a été déstructuré depuis les années, je pourrais dire, 90. Les mutineries qui sont apparues ces derniers temps ne sont pas nouvelles. Et déjà en 90, on a vu comment les militaires avaient réussi à acculer les autorités politiques en permettant tout le recrutement d'une classe, je pourrais dire, de soldats dans l'armée. Et à chaque fois, on a vu en 99 que le coup d'État est parti de ces mutineries. Divers mutineries ont éclaté également pendant toute la période de la crise au niveau des forces loyalistes, même aussi au niveau de la rébellion. La mutinerie est une modalité, je dirais, d'expression de mécontentement au sein de l'institution militaire en Côte d'Ivoire, qui devient un cas d'école et qui crée une dynamique structurante du rapport des soldats avec leur hiérarchie dans un contexte où la gouvernance militaire elle-même n'est pas faite selon les modèles classiques ou les standards convenables. Et donc, il y a une question à s'interroger sur le fonctionnement même de l'armée. La politique de réforme du secteur de la sécurité après la crise devait mettre sur table toutes ces questions. Et donc, il a été prévu une loi de programmation militaire qui devait permettre de résoudre la question des effectifs ou des hiérarchies.
De
la formation qui sont déséquilibrés. Sauf que l'environnement politique dans lequel ce type de réformes sont menées amène justement à questionner et à remettre en cause les modèles même de RSS qui sont mis en œuvre. Nous avons une armée, il ne faut pas le cacher, je l'ai dit, politisée, où vous avez une des strates de soldats ou d'officiers qui sont plus ou moins liés à des hiérarchies politiques, à des solidarités ethniques qui finalement brouillent la mise en œuvre des règles formelles au sein même de l'armée. Voilà.
Alors, dernière question, qui dit société, dit hommes et femmes. Selon vous, quel rôle devraient ou jouent peut-être déjà les femmes ou devraient-elles jouer justement dans la stabilisation du pays, dans le processus de paix?
D'abord, un chiffre. Disons, 50% de la population ivoirienne est féminine. Et sans parti pris idéologique, je dirais, ce serait quand même se tirer une balle dans le pied que de mettre à la marge une catégorie importante de la population. Et qu'elle ne participe pas au processus politique, économique, culturel, elle y participe, mais pas suffisamment mise en avant. À notre avis, les femmes en Côte d'Ivoire peuvent jouer beaucoup dans tous les domaines, mais quand je prends le domaine de la construction de la paix, elles ont une certaine subtilité dans le dialogue communautaire qui se joue. Les femmes en Côte d'Ivoire traversent de par leurs activités les clivages communautaires, ethniques et même politiques. Les femmes ont cette capacité de créativité, de productivité qu'il faut prendre en compte, sinon la société elle-même, elle fera du surplace. Donc il faudrait mettre en place des politiques publiques qui ouvrent cet espace, qui donnent cet espace aux femmes. Il y a des promesses politiques qui sont en général faites pour rééquilibrer au niveau des responsabilités politiques et tout cela, mais on ne le sent pas de façon affirmée. Dans l'administration, par exemple, il y a beaucoup de compétences. Il y a eu cette belle initiative du gouvernement qui a demandé à une dame, Madame Yao, qui était ministre dernièrement, de faire ce qu'elle a appelé le compendium des femmes, des compétences féminines. Oui. Donc, il y a eu tout un répertoire des profils intéressants qui peuvent assumer des responsabilités politiques. Voici un vivier là qui n'est pas exploité. Donc, il faudrait faire plus que ça dans la mise au cœur même du système de gouvernance, de prise de décision, les femmes, dans l'intérêt du pays.
Très bien. Fahir Ramon, Rodrigue Koné, merci pour cet éclairage fort intéressant.
Merci beaucoup, madame, ce fut un plaisir.
Lamarane, qui nous suit de New York, salue de son côté le départ des forces onusiennes qui ont activement participé à faire respecter le verdict des urnes. Reste que les défis de la Côte d'Ivoire sont nombreux, surtout ceux liés à la sécurité et à la réconciliation. Alors espérons que la paix va continuer pour toujours, souhaite-t-il. Notez que l'organisation Human Rights Watch souligne de son côté que la Côte d'Ivoire a bénéficié de plus de 6 ans de paix et de sécurité relative après la crise post-électorale de 2010-2011 qui a fait plus de 3000 morts en 5 ans, mais l'insuffisance des progrès réalisés par le gouvernement pour lutter contre la culture de l'impunité de longue date, pour réformer les forces de sécurité et renforcer les institutions de l'état de droit menacent les perspectives de paix et de développement à long terme du pays. Et l'ONG de défense des droits de l'homme estime que le départ définitif des casques bleus de l'ONU est une occasion pour le gouvernement ivoirien de traiter les causes profondes des tensions politiques. Voilà, je vous invite à réagir à ce club ou sur tout autre sujet qui vous tient à cœur. N'hésitez pas à m'envoyer par exemple un courrier électronique. Mon adresse, c'est mireille.drone@dw.com. Vous pouvez aussi laisser des messages écrits ou parler via WhatsApp. Pour vous inscrire, tapez tout simplement dw.com/WhatsApp et vous serez guidé pour entrer en contact avec nous. En plus, vous recevrez nos informations et c'est gratuit. Je vous invite aussi à consulter notre site internet en tapant www.com/français-sans-cédille. Vous y retrouverez les émissions du Club de l'Auditeur et tous nos programmes à télécharger dans la rubrique médiathèque en haut de la page d'accueil, ainsi que les liens vers nos pages Facebook et Twitter. J'espère donc vous lire très bientôt. En attendant, bon week-end à tous. Au revoir.
Depuis mon enfance, j'ai vécu dans le ghetto. Depuis mon enfance, j'ai vécu dans le ghetto. Mon papa n'était qu'un simple cordonnier.